Non. Alors, quand j'étais jeune, dans cette... faut-il s'étonner qu'il y ait des mystères dans la religion? Non, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des mystères dans la religion quand il y en a déjà dans la nature. Seulement aujourd'hui, tous les enfants savent, les enfants de CE2, même que les mystères de la nature sont provisoires. Ils savent très bien qu'un jour, les biologistes, les médecins arriveront à résoudre le mystère du cancer ou du sida. Tandis que les mystères de la religion, ils sont définitifs. On ne comprendra jamais le mystère de la Trinité ou le mystère de la Providence. Alors comment faire? Trois solutions. Premièrement, ne pas essayer de comprendre. Et alors il y a des gens qui s'imaginent que c'est chrétien, ça, que c'est l'esprit d'enfance, que c'est l'humilité. Non, ce n'est pas l'humilité. L'Église a toujours condamné ce qu'elle appelle dans son jargon le fidéisme. Le fidéisme, c'est l'erreur dans laquelle tombent les chrétiens qui pensent dans la religion, moins on réfléchit, mieux ça vaut. Il ne faut pas chercher à comprendre. L'Eucharistie, t'avales, tu comprends rien, c'est bien fait pour toi. Oh. Alors, vous savez que je suis plutôt spécialiste de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein, j'ai écrit une dizaine de bouquins sur Sainte Thérèse. Sainte Thérèse n'est pas fidéiste. Elle n'aurait jamais été canonisée si elle disait cela. D'ailleurs, l'un des verbes qu'elle emploie le plus, c'est le verbe comprendre. Comme tous les saints, elle a compris beaucoup de choses. Et c'est pourquoi elle aime le Seigneur. Bon, donc on a le droit, je l'ai dit en commençant, de chercher à comprendre. Bon, on va voir. Bon, parce que Jésus a multiplié les signes pour montrer aux disciples qui il était. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Mais Jésus, vous voyez, il y a malheureusement des catéchistes qui ne connaissent pas bien l'Évangile. Alors, vous savez, mes enfants, c'est mieux quand on ne cherche pas de signes. Hein, parce que si vous cherchez des signes, des miracles, c'est que vous n'êtes pas très chrétien. Ne dites jamais cette erreur énorme qui fait perdre la foi aux jeunes. Hein? Ou bien qu'il y a des profs de littérature qui osent encore dire, vous savez, la foi, c'est un pari, confère Pascal. Oh, ça m'énerve, ça. Jamais Pascal. Bon, allez, on va essayer de faire un sondage. Si vous êtes sympa, quels sont ceux qui entendent dire que pour Pascal, la foi était un pari? Allez, levez le doigt. Que pour Pascal, la foi était un pari. Bon. Bah, c'est dommage parce que c'est une erreur énorme. Ça mérite un zéro pointé en histoire des idées. Voyez. Ça prouve que vous n'avez jamais, que ceux qui vous ont dit ça n'ont jamais lu le pari de Pascal. Parce que dans le texte, il est dit que la foi est une certitude. Mais ça fait partie, vous savez, des idées du français moyen, quoi. Hein, le pari de Pascal. C'est idiot, quoi. Oh, je pourrais faire tout un coup. En aparté, si vous voulez, je ferai ça après. Et les Français s'imaginent que ce grand génie du XVIIe siècle français, pour lui, la foi est à Paris. Vous avez un élève de seconde dans un lycée qui entend ça, bon, je ne fais pas le pari, c'est terminé, quoi. Non, Pascal, bon. Non, donc, qu'est-ce que Jésus dit à saint Thomas? C'est pas parce que vous savez, l'histoire, saint Thomas, le jour de Pâques, il était parti à Auchan, et donc il faisait les courses, il n'était pas là. Il veut voir lui-même. Si je ne vois pas moi-même, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, Jésus se manifeste, et qu'est-ce que reproche Jésus à Thomas? C'est de ne pas avoir voulu croire les copains. Jésus ne dit pas, heureux ceux qui croient sans avoir besoin de signes. Jésus les a multipliés, regardez l'Évangile, depuis les noces de Cana jusqu'à la résurrection de Lazare. Jésus, il frappe fort, il fait de gros miracles. Il n'a jamais... Bon, tel fut le premier signe que Jésus fit à Cana en Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Les disciples Jésus ont commencé à croire avec ce grand miracle des noces de Cana. Bon, donc, on a le droit de... Bon, il ne faut pas mettre son intelligence... au vestiaire. Mais j'ai des bons amis que j'aime bien, qui m'invitent à leur table et qui sont fidéistes. Oh, je cherche pas à comprendre. Ce sont des ingénieurs, ils réfléchissent. Bon, ils se sont mis dans la tête que l'intelligence ne devait pas intervenir dans la vie spirituelle. Et ils s'imaginent que c'est de l'humilité. Non, c'est de la bêtise. Mais je n'en veux pas. Ils sont persuadés. Deuxième attitude, beaucoup plus fréquente, bien sûr. Voltaire, le siècle des Lumières. Bernard Pérouse nous a fait ici à Paris de Monial, il y a 2-3 ans, une magnifique conférence, comme il sait le faire. Hein, c'est le recteur actuel de... Hein, je l'ai connu quand il était séminariste, c'est une vieille amitié. Bon, Bernard Pérouse, historien, a bien montré que le problème, le gros problème d'aujourd'hui, parmi les problèmes d'aujourd'hui. On est revenu voltairien. Ce qui est trop mystérieux, on l'envoie promener. Je vous signale, au point de vue historique, que toute la bourgeoisie française était voltairienne au début du XIXe siècle. Elle a été réévangélisée par la loi Falloux, qui, au milieu du XIXe siècle, a autorisé la création de collèges catholiques secondaires dans toutes les villes de France. Et ce sont les collèges catholiques qui ont réévangélisé la bourgeoisie, les classes moyennes. Et aujourd'hui, les classes moyennes redeviennent voltairiennes. C'est un des gros problèmes d'aujourd'hui. Bon. Et moi, quand je vois des jeunes à la messe, je me demande comment ils font. Hein? Même si leur professeur n'est pas anticlérical, il enseigne par exemple qu'au XIIIe siècle, Innocent III, le grand pape du XIIIe siècle, a autorisé la torture dans les procès d'inquisition. Un pape qui autorise, si on n'explique pas qu'au Moyen-Âge c'était courant, la torture, mais le gars il perd la foi, et c'est terminé. L'abbé Pierre il a perdu la foi en seconde, pendant un cours de religion, donné par les jésuites à Lyon. Père de Foucault, il a perdu la foi en seconde, dans un lycée de Nancy. C'était pas des coureurs de jupons, hein. Les jeunes, ils se posent des questions, il faut leur répondre. Le prêtre qui vous parle, il n'a aucun mérite. Moi, j'étais dans un collège où il y avait je ne sais combien de prêtres pour nous former. Les professeurs titulaires, c'était des curés. Donc, en 6e-2, moi, j'avais compris la messe. Aujourd'hui, dans ma ville natale, Valenciennes, il n'y a pas un prêtre détaché pour tous les jeunes. C'est une autre église, quoi. Vous voyez ? Donc, c'est extrême. Les jeunes... Ils se posent un tas de questions en faisant des études normales. Maintenant, il y a combien de jeunes qui ont le bac? Bon. Donc, aujourd'hui, c'est l'échec des Lumières. Kant, le philosophe Kant allemand, qui a écrit un petit bouquin qu'aime beaucoup Bernard Pérouse, sur les Lumières. Aujourd'hui, on ne peut plus croire ce qui est trop mystérieux. Comment Voltaire est devenu voltairien? Vous savez que Voltaire était leibnizien dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il avait adopté la philosophie suivant laquelle tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Leibniz était un grand philosophe du XVIIIe qui voulait réconcilier la France et l'Allemagne, la philosophie ancienne et la philosophie moderne, les catholiques et les protestants. Bon. Dieu est amour. Quand on est amour, on ne peut pas ne pas créer le monde. Et comme il est tout puissant, il a créé le monde le meilleur. Un raisonnement qui paraît simple, mais qui est faux. Mais Voltaire était tout à fait d'accord avec ça. J'ai l'impression que le monde ne va pas bien, mais non, quand on raisonne, on se dit, Dieu étant amour et tout-puissant, il ne peut pas ne pas créer le meilleur monde possible. Voilà, philosophie de Leibniz. Et puis, il y a eu quelque chose qui a bouleversé l'Europe, tremblement de terre de Lisbonne. Cette ville ultra-catholique a été complètement ratissée par le tremblement de terre. Ça a été quelque chose de terrible comme la Shoah pour aujourd'hui. Et donc Voltaire a complètement changé de philosophie. Et il est devenu ce que vous savez. Et il écrit Candide, son roman Candide, où le professeur de philosophie, Pangloss, justement, emmène son disciple Candide et lui montre que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pour la petite histoire, il a fallu 6 semaines pour que le tremblement de terre de Lisbonne soit connu par les Parisiens. Il n'y avait pas la télé ni à l'époque, hein, ni la télévision, ni le téléphone. Et non. Donc, et tous les hérétiques, faut bien, mais j'en discutais encore ce matin avec Yves Le Saut au petit déjeuner. Tous les hérétiques, ce sont des évangélisateurs. Ce sont tous, ce sont des gens qui va évangéliser, mais qui disent « Aujourd'hui, on ne peut plus croire à des choses comme ça. » Voilà. C'est le cri de tous les hérétiques. Arius, au IVe siècle, qui était un gars qui enthousiasmait la jeunesse à Alexandrie en chantant des chants religieux dans la rue, un évangélisateur. On peut quand même pas dire que Jésus est le fils de Dieu, quoi. Non, il a pris conscience que nous étions tous enfants de Dieu. Ça a eu un succès fou. Toute l'Europe est devenue hérétique. La quasi-totalité des évêques de Gaulle sont devenus hérétiques. Sauf quelques-uns, sauf Saint-Hilaire de Poitiers, etc. Et Mohammed a repris ça quelques années plus tard. Jésus, c'est un homme génial qui n'a jamais prêché, mais ça peut pas être le Fils de Dieu. Donc, des milliards de gens à travers ne croient plus que Jésus est le Fils de Dieu, parce que c'est trop... Non, c'est trop fort, ça.